Il est 7h.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Et c'est pourtant bien la crainte de l'enfermement qui pousse depuis hier soir les futurs confinés à quitter leur région, ruée sur les billets de train et d'avion ces dernières heures. Pour 21 millions de Français, déplacement limité et retour de l'attestation. Contrôle compliqué en vue pour les policiers face à des citoyens lassés qui tentent déjà d'imaginer comment contourner le système. Dans ce contexte, ce confinement nouvelle version peut-il être efficace? Les scientifiques, en tout cas, y croient. Vous les entendrez. Et puis, un boucher au grand cœur qui vient en aide aux étudiants. Rencontre dans un instant. Juste après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Le roi des Zoulous a été inhumé devant l'Afrique du Sud en larmes. Il y a des centaines de rois, ils sont la force et l'avenir de l'Afrique.
L'édito sport de Virginie Fulpin, et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Être mené en bateau, je ne le souhaite à personne évidemment. Par contre, dans quelques instants, je vous expliquerai avec plaisir pourquoi on utilise cette expression.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le confinement nouveau est donc bel et bien arrivé. Commerce non essentiel fermé, déplacement limité, 7 jours sur 7 et pendant un mois, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, en Seine-Maritime, dans les Alpes-Maritimes et dans l'Eure.
Un coup de massue pour 21 millions de Français après un an d'efforts. Quels effets peuvent produire ces nouvelles restrictions? Sur le plan sanitaire, on va y revenir dans un tout petit instant. Et sur le plan psychologique, déjà un constat, ces annonces ont eu un effet repoussoir.
Oui, pas question apparemment pour un certain nombre de renouer avec les attestations pour sortir de leur domicile. Résultat, dès hier soir, des sites internet pris d'assaut comme celui de la SNCF, Aurélien Fleureau.
Ah oui, l'effet a été immédiat. La plupart des TGV ont été remplis en moins de 2 heures. Un exemple, faire Paris-Bordeaux pour moins de 25 euros et à l'heure de votre choix, eh bien c'était tout à fait possible en milieu d'après-midi. Mais depuis l'annonce du reconfinement dans 16 départements, 21 des 26 TGV programmés ce vendredi 18 mars affichent complet sur cette destination et les rares billets encore disponibles ont vite atteint le plafond de 111 euros en seconde classe. Cette ruée vers l'ouest a même poussé la SNCF à renforcer ses effectifs de gilets rouges Gare Montparnasse, un dispositif digne d'un week-end de grand départ. La compagnie a précisé que tous les trains circuleront comme prévu dans les prochains jours, ce qui n'a pas empêché une première vague d'annulation dès hier soir. La SNCF a une nouvelle fois rendu tous les billets échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment, et ce, jusqu'au 19 avril. Constat similaire pour les billets d'avion. Hier soir, les prix ont rapidement flambé. Alors, ce ne sont pas les compagnies qui ont augmenté ces prix. Il s'agit de cette fameuse politique de yield management. En clair, plus il y a de demandes, plus les tarifs grimpent.
La perspective d'une nouvelle privation de liberté qui pèse donc, mais face à l'épidémie galopante. 35 000 nouveaux cas hier. Ces mesures peuvent-elles permettre d'enrayer les contaminations? Les scientifiques, en tout cas, veulent y croire, Victor Dolande.
Oui, tous les spécialistes que j'ai contactés hier soir étaient satisfaits. Ce sont ceux-là même qui, depuis des semaines, réclamaient un reconfinement.
Je suis agréablement surprise que des mesures sérieuses aient été prises.
Dominique Costaglioda, épidémiologiste à l'INSERM.
Je craignais qu'on prenne des mesures qui avaient peu de chances d'avoir un effet, compte tenu de ce qu'on a vu, de l'impact des confinements du week-end dans les départements qui étaient concernés. Mais là, les mesures sont quand même plus importantes. Et donc, oui, je pense que c'est susceptible d'avoir un effet.
En limitant considérablement le brassage des populations, la circulation du virus devrait baisser dans les prochaines semaines. Parmi les points forts annoncés hier soir, le retour de l'attestation pour les déplacements qui devrait agir comme une piqûre de rappel d'une situation épidémique très délicate, comme l'explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Le fait de devoir se déplacer avec une attestation et de se rappeler quotidiennement que la situation sanitaire exige de minimiser ses contacts va, à mon avis, avoir un effet très fort sur les sources de contamination principales.
Seul bémol, selon les spécialistes, les mesures concernant le télétravail et la restauration dans les entreprises ne sont pas assez poussées.
Mais justement, sur le télétravail, Jean Castex a simplement passé un appel hier pour que les entreprises et les administrations le poussent au maximum, au moins 4 jours sur 5, soulignant que près d'un tiers des contaminations se font au travail.
Et c'est donc une perspective qui s'efface pour les 15% de salariés, peut-être vous d'ailleurs qui y travaillent. Et depuis un an à distance, ils ne retrouveront pas tout de suite leurs collègues, leur bureau. Et pour eux, ça commence à faire très long. Pour Europe 1, Élise Dangean.
Au bout d'un an de télétravail, ils n'en peuvent plus. C'est le cas de Mathias, ingénieur informatique en banque. Il a pourtant adoré l'expérience au début, mais maintenant, trop c'est trop.
Là, on sent vraiment le manque de contact social. Je suis constamment seul chez moi, en fait. Donc, j'ai tendance à travailler beaucoup plus tard. J'ai moins tendance à prendre de pause. Je pense que j'abats plus de travail que d'habitude, mais c'est aussi beaucoup plus de souffrance dans le sens où j'ai beaucoup moins de temps pour moi et j'ai plus l'impression de vivre pour mon travail.
Un sentiment partagé par beaucoup de télétravailleurs et renforcé par toutes les mesures restrictives, comme le couvre-feu, explique Sylvain, responsable client chez un équipementier automobile.
Depuis qu'on n'a plus rien, ben c'est compliqué puisque à part travailler et sortir faire des courses, on n'a plus rien à faire. Plus rien pour s'échapper, on ne peut pas se poser en terrasse pour prendre un verre, on ne peut pas aller au cinéma. Ce sentiment d'avoir une privation de liberté devient très très pesant.
À ce stade, 2 millions de personnes travaillent encore à distance, soit 15% des salariés français.
Et c'est donc encore une fois toute la question de l'acceptation sociale de ces mesures qui se pose. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun. Mais la lassitude prend parfois le dessus au détriment des règles, comme a pu le constater Marine Protet auprès de quelques Parisiens pour Europe 1.
Manger un burger dans un parc le midi, c'est un peu le nouveau rituel de Clarisse et Margot, 19 ans. Le reste du temps, elles se voient dans l'illégalité.
J'avoue, on brave les couvre-feux pour un peu retrouver notre vie d'avant.
On continue à faire nos soirées, on en fait juste moins qu'avant. À l'école, on a aussi nos dérogations. Du coup, on peut par exemple y aller en transport, vu qu'on a nos lettres, et après on rentre en Uber. La police n'arrête pas trop les voitures, on a moins de chances de se faire contrôler.
Pour aller dîner chez des amis, le week-end comme en semaine, Vincent, 38 ans, a trouvé l'excuse infaillible.
C'est le jeu du chat et de la souris avec la police. Ils nous donnent en fait le moyen de frauder facilement, ne serait-ce que les motifs impérieux, familiaux. Ils vérifient jamais s'il y a la grand-mère qui est malade dans le coin.
D'autres préfèrent dormir sur le canapé des copains et rentrer le lendemain, oreiller sous le bras. Tous les moyens sont bons pour ne pas craquer psychologiquement, confie Aurore, 28 ans, au chômage.
Pour voir ma famille, pour voir ma petite nièce, profiter des miens parce qu'ils finissent à 17h le travail, donc on passe une heure ou deux ensemble. Et c'est important de garder quand même une proximité avec les miens pour rester saine d'esprit.
Quitte à risquer 135 euros d'amende, de toute façon, disent-ils, ils n'ont encore jamais été contrôlés.
Des contrôles qui ne seront sans doute pas plus faciles pour les forces de l'ordre avec les nouvelles mesures qui restreignent les déplacements à 10 km du domicile, mais avec une attestation dont la durée ne sera pas limitée. Stanislas Godon est le secrétaire national du syndicat de police Alliance.
La difficulté pour les forces de l'ordre, ça va être de faire respecter les règles, de calculer aussi l'histoire des 10 km, parce qu'avant c'était les 100 km à vol d'oiseau, mais là c'est les 10 km. Donc les policiers n'ont toujours pas de moyens de mesurer ces distances. Donc on est un peu dans le flou. Et puis d'ailleurs, à l'heure où on se parle, les policiers n'ont pas reçu les instructions. Ce seront encore une fois les policiers qui, sur le terrain, vont faire preuve de discernement, de pédagogie et surtout vont essayer de recueillir aussi le mécontentement de ceux qui seront pris dans un contrôle et qui ne seront pas dans les règles.
Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat de police Alliance, joint pour Europe 1 par Marion Dubreuil. Un flou dénoncé aussi par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Rien n'est prévu, rien n'est organisé, a-t-il déploré. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, dénonce le pari perdu d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle à la tête de la région Île-de-France, demande une accélération de la campagne de vaccination.
Et ces questions très, très politiques, on les pose avec Nicolas Bétou, tout à l'heure à 7h50 dans son édito. Alors la vaccination justement qui va reprendre aujourd'hui avec le vaccin AstraZeneca, il a été jugé sûr et efficace hier par l'Agence européenne des médicaments. Jean Castex lui-même doit être vacciné cet après-midi.
Et pendant ce temps aux États-Unis, l'objectif fixé par le nouveau président Joe Biden atteint avec un peu plus d'un mois d'avance déjà 100 millions de doses administrées.
7h09 sur Europe 1. Il veut soutenir les étudiants pour les aider à affronter la crise. L'initiative d'un boucher de Vénissieux près de Lyon dans le quartier des Minguettes.
Il a décidé d'offrir à ses étudiants des colis de viande. Reportage de Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
C'est avec un grand sac rempli à ras-bord que Cassandra, étudiante de 21 ans, sort de la boucherie Slimani. À l'intérieur de son cabas, il y a
des cordons bleus, des steaks et de la terrine aussi, de la bonne viande.
Parce que vous n'en mangez pas souvent ?
Non, pas trop souvent. C'est un petit peu cher.
Trop cher la viande pour les étudiants, c'est ce qui a ému Mourad Slimani, le patron de la boucherie du même nom, qui a eu l'idée de ces colis qu'il distribue gratuitement.
On lit les journaux, on regarde la détresse des étudiants. S'il n'y a pas de solidarité maintenant, c'est quand qu'on va l'avoir ? Bon, mon banquier m'a dit oui, tu peux y aller, c'est bon. Et j'ai envie de le faire. Et je suis très fier de le faire et très content. Ça vient du cœur.
Dans le colis, on trouve aussi des pâtes, du riz, des biscuits, du pain, du salami ou du coca. De quoi manger pendant une bonne semaine. Irem, étudiante de 22 ans, repart avec un grand sourire.
Psychologiquement, ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui se soucient des étudiants. C'est vrai que c'est plutôt compliqué quand on ne peut plus du tout travailler, ne serait-ce qu'à un poste de caissière. Donc c'est super cool de pouvoir varier avec des choses. Et une bouteille de Coca-Cola, on ne se rend pas compte, mais ça fait vraiment trop plaisir. Donc je suis super contente.
Hier, 150 colis ont été distribués aux étudiants, le boucher au grand cœur. On a prévu 1000 au total à venir chercher tous les mercredis jusqu'à épuisement des stocks.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Vénitieux. Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
C'est un moment que vous ne manquerez pas, Mathieu, je n'en doute pas. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions tout à l'heure à la mi-journée. Parmi les 7 adversaires potentiels du PSG, Bayern Munich, Chelsea ou Real Madrid.
Il ouais, n'y a plus beaucoup de petits. Hein.
C'est ça, 6 ont déjà gagné au moins une fois la compétition. Du côté de la Ligue Europa, c'était hier soir, Paul Pogba a qualifié Manchester United contre le Milan AC, victoire 1-0. Et petite sensation à Zagreb où le Dynamo a sorti Tottenham après prolongation.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tout à l'heure, je vous propose quelques minutes d'autre chose en fait. Une interview presque garantie sans Covid. Nathalie Dessay. Alors que sort un coffret de 33 CD et 19 DVD de sa carrière lyrique, rendez-vous compte, c'est massif, Nathalie Dessay nous fait le plaisir de parler musique, opéra. C'est le tête-à-tête Europe Matin dans allez, une demi-heure maintenant, un tête-à-tête qui va faire du bien, je vous le promets. Tout de suite, on va revenir aux choses qui fâchent avec vous, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et le confinement, ça coûte cher et surtout ça fait exploser la dette. Alors aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas trop, mais attention au réveil.
Ce sera avant de parler des rois d'Afrique dans le regard international de Vincent Hervet. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Ce sera l'un des débats de la présidentielle. Que faire face à la montagne de dettes que la crise du Covid nous a laissée? Il y a des pistes.
Oui, car il va bien falloir à un moment que ça s'arrête. Depuis le début de la crise du Covid, l'argent public coule à flot. La crise a coûté 160 milliards d'euros l'an dernier. C'est l'équivalent de plus de 4 années du budget de la Défense. Or, tout cet argent, ça n'est que de la dette. Le quoi qu'il en coûte a été financé en empruntant sur les marchés financiers. Alors certes, à taux zéro, mais tout de même, cette dette, il va bien falloir la rembourser un jour, ou en tout cas essayer de la réduire pour que son montant ne devienne pas écrasant le jour où les taux d'intérêt remonteront, ce qui est un petit peu le cas en ce moment.
Et c'est possible de contenir cette dette ?
Alors, si on met de côté les propositions farfelues ou démagogiques du style « on annule la dette », la réponse, oui, heureusement, c'est possible de la contenir, mais ça ne pourra se faire que sur plusieurs années. C'est la conclusion à laquelle est parvenu un rapport remis hier au gouvernement par l'ancien ministre des Finances Jean Arthuis. En fait, et à condition de limiter très fortement la progression des dépenses publiques, c'est-à-dire moins de 1% de hausse par an, ce qui veut dire faire plus d'efforts que ce qu'on en a fait depuis 10 ans, eh bien, si on fait tout ça, on commence à infléchir la dette à partir seulement de 2030. C'est vous dire, en réalité, l'effet d'inertie. Cette dette, c'est un peu comme un énorme paquebot qu'on n'arrive pas à arrêter. Si on ne fait rien, en revanche, alors là, le risque, c'est qu'un jour, elle devienne vraiment insoutenable.
En attendant, le confinement partiel décidé hier soir, c'est encore de la dette en plus.
Oui, alors les départements reconfinés pèsent 40% de l'économie du pays. Il va falloir une rallonge de 1,2 milliard par mois en aide d'urgence pour les entreprises concernées. Ça porte l'addition mensuelle à plus de 7 milliards. Tout ça, ben, c'est de la dette. Effectivement, vous avez raison, il n'y a pas le choix. Cette dette sert à sauver des entreprises, à préserver nos capacités de rebond et donc, in fine, nos capacités de remboursement plus tard. Mais lorsque nous sortirons de la pandémie, on l'espère d'ici l'été, eh bien, nous devrons définir une stratégie face à l'emballement de cette dette publique. Nous ne couperons pas à ce débat en pleine campagne présidentielle.
Merci Nicolas Barré. Alors je passe un message à l'antenne, comme ça, tous vos collaborateurs des Échos. Nicolas va arriver un petit peu plus tard aujourd'hui. Pourquoi ? Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics à 8h15 tout à l'heure. Et puis Nathalie Dessay à 7h40. Je le dis à nos auditeurs, Nicolas Barré, grand amateur de musique classique évidemment. Voilà, on le garde ce matin Nicolas. 7h15 sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous aimez la musique aussi Vincent Hervouet?
Oui.
Sans plus.
Non.
Alors tenez, je vais vous donner quelques notes d'ambiance, ça c'est tout autre chose. Vous revenez ce matin Vincent sur l'enterrement du roi des Zoulous hier en Afrique du Sud.
Oui, Goodwill Zwelithini est mort du Covid il y a une semaine et hier il a eu droit à des obsèques plus grandioses qu'un souverain européen. Un cortège de guerriers a porté sa dépouille au palais royal où il a été enterré selon un rituel très secret. Les femmes portaient des colliers et chantaient. Le président sud-africain a pleuré la chute d'un grand arbre. Il y avait un parterre de dignitaires étrangers, une princesse monégasque, le nouveau président de la Fédération africaine de football. Et les Sud-Africains ont même eu droit tout l'après-midi au courant électrique alors que les délestages sont permanents pour suivre à la télé ces funérailles d'État. Le jour venu, Elisabeth II ne fera pas mieux.
Mais on peut vraiment comparer les deux souverains ?
Ben, la dynastie des Windsor est moins ancienne, deux fois moins. Et en son temps, l'aïeul de Zwelithini a battu à plate couture les troupes de la reine Victoria. Lui-même a régné 50 ans, moins longtemps qu'Elisabeth II, mais il était aussi vénéré de ses 12 millions de sujets. Et puis surtout, leur métier est le même, incarner la nation, assurer le lien social, maintenir la paix et l'unité, une fonction symbolique et une charge très politique.
Alors, ce roi, il était tout de même très contesté.
Ben, il avait traité les migrants de cafards, il était homophobe, partisan des châtiments corporels, il avait aussi restauré la danse des jeunes vierges autour de son palais. Et c'est pas comme ça qu'on devient un ami d'Hollywood et d'Oprah Winfrey. Les libéraux l'accusaient aussi d'avoir attendu la chute de l'apartheid pour se rallier à la démocratie. En fait, un de ses oncles, Buthelezi, combattait l'ANC et un autre avait rallié Mandela. Et ainsi, la dynastie Zoulou a survécu au colonialisme, à l'apartheid, à la toute-puissance de l'ANC. À l'indépendance, les rois d'Afrique ont été marginalisés. 60 ans après, ils sont partout restaurés. Ils gèrent les terres, rendent la justice, servent de médiateurs. Et nombre de ces rois au sceptre de paille se forment à la fac, dans l'entreprise, dans l'administration, avant de revenir au village pour défendre les intérêts de leur communauté. Les rois ne sont pas du folklore, c'est la réalité et l'avenir de l'Afrique. Le roi des Zoulous est mort. Vive les rois.
Merci Vincent Hervouette, le regard international tous les matins sur Europe 1 à 7h18. Tout de suite, tiens, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Ça veut dire quoi aujourd'hui jouer à domicile ? Plus grand chose, avec les tribunes vides, les huis clos ne sont pas juste tristes, ils peuvent aussi changer les résultats sportifs.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tiens, écoutez, on a un petit extrait sonore qui nous arrive tout droit du monde d'avant.
Oh, du public.
Vous rappelez, c'est incroyable, c'est le public dans les stades. Alors, on parle que de ça en ce moment dans le sport, hein. Faut bien le comprendre. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent décider demain si des spectateurs étrangers pourront assister aux Jeux ou non. L'UEFA qui met la pression pour que les stades de l'Euro soient remplis. Pour vous, si la pandémie a eu une seule vertu depuis un an dans le sport, c'est de nous rappeler l'importance du public.
Qu'est-ce que c'est le sport ? On a eu le temps de réfléchir depuis le début de la pandémie à l'essence même du sport. Là, je parle du sport professionnel. Il y a un an, les compétitions s'arrêtaient. On a pu mesurer le manque que l'absence même des acteurs nous procurait. Puis les sportifs sont revenus, mais pas le public. Et on ne s'habitue jamais à ces stades et à ces salles vides. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai discuté avec plein de gens qui me disent « Ah non, mais moi je ne suis pas trop ce qui se passe en sport en ce moment, sans public, j'y arrive pas. » Oui, le sport, ça se partage et c'est quand on est privé de cette communion qu'on se rend encore plus compte qu'elle est essentielle. On critique souvent Benoît Paire, le joueur de tennis spécialiste des crises de nerfs, des lancers de raquettes et des matchs balancés. Mais quand il explique qu'il n'arrive pas vraiment à jouer en ce moment parce qu'il ne trouve pas de sens au fait de courir le monde en avion pour se retrouver à taper dans une balle devant des tribunes vides, je pense qu'on peut l'entendre. En plus, au tennis, il y a eu cette petite parenthèse enchantée, vous vous en souvenez, à l'Open d'Australie, avec des spectateurs en tribune. Et c'est encore plus dur de regoûter à cette ambiance d'antan avant de retomber dans le vide.
Le sport sans public n'a pas le même goût et ça peut aussi changer la donne pour les résultats.
Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de football a lieu aujourd'hui. Normalement, au-delà d'adversaires réservés aux clubs qu'on soutient, on veut savoir qui aura la chance de jouer le match retour à domicile. C'est un avantage de jouer chez soi au moment où tout se décide. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi à domicile ? Les clubs de foot n'ont jamais autant perdu chez eux que cette saison. Le PSG, par exemple, offre des points à gogo à ses adversaires au Parc des Princes. Et il n'est pas le seul, Mathieu. Dans toute l'Europe, les clubs n'ont plus vraiment d'avantage dans leur antre. Forcément, personne n'est là pour vous requinquer quand ça va mal. Personne n'est là pour vous pousser à aller chercher ce but qui peut vous offrir une qualification inespérée. Et personne n'est là pour protester quand vous ne courez pas assez. À l'extérieur ou à domicile, vous jouez toujours devant des sièges vides. Il n'y a plus vraiment de différence. Le huis clos, ça n'est pas que triste. Ça change aussi la donne sur le terrain. On va peut-être y réfléchir à deux fois maintenant avant de
taper sur les supporters à la moindre occasion.
Merci Virginie Fulpin. Alors c'est vrai que les sportifs ont besoin des supporters. Les supporters, ça leur manque aussi.
Évidemment, oui.
Je passe sous le Parc des Princes tous les jours. Tous les jours, tous les matins.
Vous essayez de rentrer et puis c'est pas possible.
Virginie Fulpin, merci beaucoup. Ce plaidoyer pour le public dans les stades. 7h23, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on se joue de vous, quand on vous fait tourner en bourrique, il y a une expression qui est simple et qui pourtant, dans son origine, est étonnante, c'est être mené en bateau.
Oui, donc être mené en bateau, j'imagine que la navigation a un rôle, mais si on nous balade là où on ne veut pas, c'est qu'il y a un problème de gouvernail ou que le capitaine est mal intentionné.
Eh bien, c'est bien là où le contre-pied est total. Ça n'a rien à voir avec la mer ni avec les marins d'eau douce. L'expression vient des bateleurs, comprenez, les prestidigitateurs, des amuseurs de rue, et non des bateliers, ceux qui conduisent les bateaux. Au Moyen-Âge, un bas-astel est un tour de passe-passe que l'on fait dans la rue, si possible en gardant un œil alerte pour voir si la police déboule. C'est la ressemblance entre bateleur et batelier qui donnera « mener en bateau ». Avant cela, on disait « monter un bateau », dans le sens « monter un coup », élaborer un jeu de dupes. En Roumanie, sachez qu'on dit « mener par le nez », chez nous c'est le bout du nez. Au Royaume-Uni, c'est « lead someone up the garden path ». On emmène quelqu'un sur l'allée du jardin. Et en espagnol, c'est « dar gato por libre ». Comprenez, donner un chat au lieu d'un lièvre. C'est vrai qu'il y a de quoi être déçu. Allez, quittons-nous sur de belles paroles de Marcel Pagnol. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau. Acheter une île.
À 16h tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, aujourd'hui, on réunit Alexandre Bontemps, qui en a passé du temps aux côtés de Louis XIV. Céleste Albarré, avec qui Marcel Proust a passé les dernières années de sa vie. Et le aussi discret qu'immortel Alfred Pennyworth, le majordome de Batman. Oui, vous l'avez compris, leur point commun, majordome, premier valet, gouvernante. Monsieur est servi à 16h.
16h tout à l'heure, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. 7h25 sur Europe 1, dans un tout petit instant, Laurent Cabrol, la météo et Sophie Hachen qui s'installent pour un nouveau journal. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Allez, nous sortons du mauvais, nous sortons de la pluie, nous sortons de la neige maintenant, puisque, enfin pas de la neige, parce que oui, il ne va plus tomber de neige, puisque le ciel sera dégagé à la fois demain samedi et dimanche et lundi, mardi, donc on peut dire que la neige est finie, la pluie se finit pour l'instant, l'anticyclone est là, et donc nous allons vivre aujourd'hui une étape d'amélioration, c'est-à-dire le temps va s'améliorer. Alors il est très couvert en ce moment, hein, sur les régions du sud-ouest, il y a de la pluie, tout cela va s'arranger dans le courant d'après-midi seulement, pour certaines régions, comme le sud-ouest, comme la Bretagne, la Vendée, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, tout ceci va se dégager seulement en deuxième partie de journée. Mais sur le nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Normandie, l'Île-de-France, donc Paris, le Berry, la Franche-Comté, la région lyonnaise et la vallée du Rhône, les éclaircies iront crescendo au fil des heures, au fil des minutes. Sur des régions comme, on s'en fiche, il n'y a que les Chamois, les Vosges, le Jura, les Alpes, de la neige à partir de 300 mètres, mais c'est pas grave.
On a perdu quelques auditeurs. Si ça capte, là-haut, Laurent, vous allez vous faire des copains. Merci.
Non, ils aiment la neige là-haut.
Oui, cela dit, ils ont un peu plus l'habitude que nous en pleine. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
On fait aussi de la radio pour les chamois, Laurent Cabrol. J'y tiens, je le souligne. Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
J'étais seul avec lui dans son bureau, j'ai dit « Je vous ai regardé dans les yeux et je crois que vous n'avez pas d'âme ». Il m'a dit « Alors nous nous comprenons ». Donc vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur ? Je le pense.
Cette petite phrase de Joe Biden a mis le feu aux poudres entre Washington et Moscou. Résultat, Vladimir Poutine réclame une confrontation avec son homologue. Dans ce journal, le retour des attestations de déplacement pour un tiers des Français reconfinés dès ce soir avec quelques nouvelles règles. Le confinement qui suscite des réactions mitigées, voire très négatives sur tout l'échiquier politique. Et puis la neige des Alpes n'est pas éternelle. En un demi-siècle, le massif a perdu près d'un mois d'enneigement.
Juste après ce journal, la touche âme, Bertrand Chameroy. De la musique aujourd'hui avec la cantatrice Nathalie Dessay dans le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Eh bien, vous l'avez entendu comme moi, Mathieu, ce n'est pas un confinement, mais une mesure de freinage massif. Jean Castex n'a pas nommé les choses. Hier soir, Emmanuel Macron, avant lui, avait tout fait pour brouiller les pistes. Mais pour qui nous prend-on ?
Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale juste avant 8h. Ce matin, le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La guerre des mots est déclarée entre Moscou et Washington. D'abord Joe Biden qui traite Vladimir Poutine de tueur, vous l'entendiez. Et la réponse lapidaire du président russe. C'est celui qu'il dit qu'il est. Alors il ne s'agit pas d'une querelle de cours d'école, non, mais bien d'une amorce de crise diplomatique. D'ailleurs, la surenchère ne s'arrête pas là, Jean-Sébastien Soldaini, puisque Vladimir Poutine en a remis une couche.
Et c'est sur un ton désinvolte, sourire en coin, que Vladimir Poutine semble lancer un défi à Joe Biden. Alors qu'il vient de célébrer l'anniversaire de l'annexion de la Crimée dans un stade de Moscou, le président russe profite de la présence d'une caméra et invite pour ainsi dire son homologue à descendre dans l'arène.
Je propose au président Biden de discuter à condition que nous le fassions au cours d'un échange diffusé en direct. On ferait ça, comme on dit, online.
Online, pour un débat devant le monde entier, rien que ça, Vladimir Poutine suggère même des date aujourd'hui ou lundi, parce que ce week-end, il dit vouloir se reposer dans la taïga. Cela pourrait prêter à sourire si derrière il n'y avait pas d'autres enjeux. Les deux hommes avaient amorcé un semblant d'entente sur des dossiers où ils ont des intérêts communs, le nucléaire iranien, la limitation de leur arsenal ou encore le réchauffement climatique. Entre les lignes, il y a surtout un changement de chef à la Maison-Blanche. Joe Biden est beaucoup moins clément avec Vladimir Poutine que ne l'était Donald Trump. Le président russe l'a bien compris et réagit à sa manière au message que lui envoie Washington. Les États-Unis sont de retour dans la partie et ne vont plus lui laisser le moindre espace.
C'est celui qui dit qu'il l'est, on en est là. Puis, alors comme si ça ne suffisait pas, après la Russie, Washington se confronte à la Chine.
Et au cours du premier face-à-face entre les deux pays sous l'ère Biden, c'était la nuit dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pointé tour à tour le génocide contre le peuple ouïghour, les situations à Hong Kong et Taïwan et les cyberattaques contre les États-Unis. Réaction chinoise, il faut abandonner cette mentalité de guerre froide.
Retour en France et à la une, évidemment, le reconfinement pour un tiers des Français à partir de ce soir minuit. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, mais aussi les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et des Alpes-Maritimes qui se mettent sous cloche pour les quatre prochaines semaines.
Avec une bonne nouvelle tout de même. Le couvre-feu est un tout petit peu allégé. Il débute désormais à 19h sur tout le territoire. Mais une nouvelle fois, Marion Dubreuil, nos déplacements sont soumis à des règles plus strictes.
Oui, c'est le retour des attestations en journée et du rayon des 10 km autorisés pour vos déplacements, avec interdiction d'aller d'une région à l'autre, sauf motif impérieux ou professionnel. En revanche, cette fois-ci, vos sorties pour faire du sport ou même tout simplement vous promener, vous aérer, ne seront pas limitées dans le temps, contrairement aux deux précédents confinements. Le gouvernement le sait, avec l'arrivée des beaux jours, c'est plus compliqué d'imposer aux Français de rester enfermés chez eux, d'autant que les contaminations sont bien moins importantes en extérieur. Mais Jean Castex a déjà mis en garde contre des regroupements, des rassemblements qui pourraient présenter un risque sanitaire. La fréquentation de certains espaces publics sera interdite s'il existe un danger de propagation du virus.
Le mode d'emploi signé Marion Dubreuil.
L'annonce de ce reconfinement, même partiel, était attendue par de nombreux professionnels de santé. Côté politique, en revanche, les réactions sont plus partagées.
Et le confinement, c'est ce que l'on fait quand on a tout raté, ça ce sont les mots de Marine Le Pen. Pour Fabien Roussel du Parti communiste, tout cela manque de clarté et arrive bien trop tard. Et selon le député Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, cette décision traduit l'échec du gouvernement dans la campagne de vaccination.
La réalité, c'est qu'on est obligé de confiner les Français parce qu'on a trop de lenteur vaccinale, parce qu'on a eu trop d'hésitations, parce qu'on a suspendu pendant 3 jours de manière incompréhensible AstraZeneca et parce qu'on n'a pas assez de lits de réanimation. On n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre choix. Encore une fois, le gouvernement est acculé et mis devant ses responsabilités. Je pense que malheureusement, le confinement, c'est l'arme des faibles. Le confinement, c'est la preuve tout simplement de l'incapacité du gouvernement à faire face à cette crise sanitaire encore aujourd'hui.
Damien Abad avec Hélène Terzian. Cette bonne nouvelle pour les éleveurs de volailles du Sud-Ouest. Après que leurs exploitations ont été décimées à cause de la grippe aviaire, ils vont enfin pouvoir accueillir de nouvelles poules pondeuses, des poulets et des pintades. En revanche, pas de canards ni d'oies pour l'instant. Ils sont plus sensibles au virus.
Et puis ce constat préoccupant, en 50 ans, les Alpes ont perdu un mois de neige pendant l'hiver.
Alors on s'en est moins rendu compte cette année, faute de pouvoir aller skier dans le massif. Mais les scientifiques sont formels. Ils ont collecté les données de quelques 2000 stations météo réparties dans la zone, Virginie Salmen.
Oui, la neige tombe plus tard dans l'hiver et fond plus tôt au printemps. Résultat, entre 22 et 34 jours de neige en moins au sol qu'il y a 50 ans dans les villages et les stations en dessous de 2000 mètres d'altitude.
Les précipitations tombent de plus en plus souvent sous forme de pluie et de moins en moins souvent sous forme de neige à basse et moyenne altitude sous l'effet du réchauffement climatique.
Samuel Morin, directeur du Centre national de recherche météorologique du CNRS et de Météo France, est auteur de l'étude.
Et la neige fond plus tôt et plus vite puisqu'il fait plus chaud et qu'en plus, il y a déjà moins de neige qui se forme et donc la fonte est encore plus accélérée au printemps. Donc ça a des conséquences sur le débit des rivières, l'eau arrive plus tôt finalement dans les rivières et donc ça a des conséquences sur la façon dont la faune, la flore, mais aussi l'agriculture utilise et exploite cette ressource. Ça a aussi des conséquences sur les modes de gestion des barrages hydroélectriques.
En haute altitude, au-dessus de 2000 mètres, la réduction du nombre de jours d'enneigement est moins importante, mais les chercheurs y constatent aussi une accélération de la fonte de neige au printemps.
Virginie Salmon, et puis vous vous rappelez sans doute de ces gigantesques incendies qui ont ravagé l'Australie en 2019 et 2020. Eh bien, ils ont été si importants qu'ils ont projeté autant de fumée dans la stratosphère qu'une grosse éruption volcanique.
Merci beaucoup Sophie Echen, vous soufflez le chaud et le froid là. J'étais passé des Alpes sans neige à ces incendies en Australie. Merci Sophie, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous le disions, donc un tiers du pays reconfiné, une campagne de vaccination qui patine toujours. Est-ce qu'il ne faut pas y voir un échec politique aussi? Vous avez entendu Damien Abad dans le journal, l'édito politique de Nicolas Bétou. Dans une dizaine de minutes et à 8h15, le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, qui répond aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, c'est vendredi, je vous ai ramené un nouveau jeu de société pour qu'on s'amuse un peu. J'espère que vous êtes bien réveillés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme. Le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Allez, on a tous besoin de se changer les idées. Donc oui. Ce matin, je vous parle d'un nouveau jeu de société qui vient tout juste de sortir.
Tu aimes jouer? Alors découvre vite Confinement édition Hybride. Une version remasterisée du jeu culte Confinement avec de nouvelles règles pour encore plus de fun. Confinement édition Hybride, un jeu Castex. Vaccin vendu séparément. Allez, on se fait une petite partie. Super, je lis les règles avant hein, parce que... Alors, oula, fou. Nombre de joueurs, 21 millions, ok. Durée de la partie, de 7 à 77 ans.
Quoi?
Ah non, pardon, j'ai sauté une ligne, 4 semaines. Bon, ça c'est comme le Monopoly, c'est toujours plus long que ce qu'ils indiquent. Hein. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a joué à Confinement. Alors, les règles. Comme son nom l'indique, Confinement Hybride est un jeu d'enfermement. Les joueurs sont donc confinés 7 jours sur 7, oui, donc comme la première fois. Attends, ah non, les écoles restent ouvertes, les commerces non essentiels ferment et les barbecues sont interdits. Hein? En outre, bien que confinés 7 jours sur 7, les joueurs ont la possibilité de sortir sans limite de temps dans un rayon de 10 km. Ah, c'est nouveau ça. Quoi, Evelyne? Oui, bah oui, donc ça veut dire que si t'es confiné, oui, t'es confiné, mais t'as une attestation et que tu veux rester dehors de 6h du match jusqu'au bout de la nuit, c'est possible du moment que tu restes dans le périmètre. C'est marqué sans limite de temps là. Ah non, attends, le couvre-feu reste en vigueur. Donc sans limite de temps, mais jusqu'à une certaine heure, ok. Dans cette édition, l'heure du couvre-feu change. Oh le bordel, je comprends plus rien. Non, mais c'est une mauvaise traduction des règles de base là. Attends deux secondes, j'appelle le SAV.
Qui fait ça?
Oui, bonjour, je viens d'acheter Confinement Hybride. Je voulais savoir, le couvre-feu, c'est à quelle heure?
L'heure de début passera de 18h, pardon, de 18h à 19h. Oh. Et cet ajustement lié à l'arrivée prochaine de l'heure d'été s'appliquera à compter de samedi prochain.
D'accord, donc quand vous dites samedi prochain, c'est samedi en 8 ou ce samedi, c'est demain ou la semaine d'après?
Il entre en vigueur, comme toutes les mesures que j'ai annoncées, dès le présent week-end.
Oui, bah vous pouviez dire après-demain. Bon, d'accord, merci. Donc, Evelyne, en gros, le couvre-feu passe à 19h ce samedi 20 mars, car on va passer à l'heure d'été le 28. Comme on avancera nos montres d'une heure, on perdra une heure de sommeil, mais on gagnera une heure d'ensoleillement et on aura une heure de couvre-feu en moins. Donc, à 18h, il sera 19h sur nos montres et le couvre-feu sera à 19h. Mais comme en réalité, il sera 18h, bah on va pas perdre une heure de couvre-feu. En heure d'été, on perdrait une heure de couvre-feu s'il l'avait mis à 20h. Bon, vous savez quoi les enfants? On va plutôt regarder Inception en VO non sous-titré, ce sera plus clair. Je suis claqué.
Vous avez déjà fait ça vraiment, Bertrand, d'appeler le SAV d'un jeu de société?
Je vous jure que j'ai déjà appelé le SAV de Hasbro pour un litige sur une partie de Uno.
J'en étais sûr. La touche âme tous les matins à 7h40 et Philippe Vandel qui vous accueille tout à l'heure gentiment,
oui,
à 10h.
C'est bien aimable de sa part.
Avec toute son équipe dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
7h42. À présent, nous quittons cette angoisse du confinement, nous quittons le Covid. Un tête-à-tête garanti à 99,9% sans épidémie. La cantatrice Nathalie Dessay, retirée des scènes lyriques depuis 2013, aujourd'hui sur les scènes de jazz ou de théâtre, quand c'est possible. N'empêche, Warner Classics publie un coffret impressionnant, l'intégrale de sa carrière à l'opéra, The Opera Singer, 33 CD, 19 DVD. On va écouter de la musique, on va parler d'opéra, je m'engage à vous changer les idées. Nathalie Dessay est mon invitée.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour.
Éditer un coffret qui retrace 30 ans de votre carrière, c'est quoi ? C'est pour solder votre première vie ou c'est la manifestation que ça vous manque ?
Retracer comme ça 23 ans de carrière à l'opéra, c'est pas rien. Ça fait un coffret qui est bien compact, qui peut servir également d'arme de poing. et qu'on ne peut pas tout à fait ouvrir. Donc je donne un petit tuto pour ouvrir ce coffret la première fois. Il faut le secouer comme de la salade. D'accord. Espérer que la partie inférieure va finir par tomber. Et là, il faut mettre un ruban dessus. Le ruban dépasse de chaque côté. On n'a plus qu'à le tirer pour pouvoir l'ouvrir à volonté.
Alors je vous demandais si ce monde-là, c'était pas du tout ma question. Est-ce que vous manquez aux gens dans la rue ? On vous en parle ? On vous chante des trucs ? J'imagine les gens s'arrêter et vous chanter des
non,
trucs
alors,
spontanément.
Non, alors on n'est pas là, faut pas exagérer. Mais oui, souvent on me dit « Ah, mais pourquoi vous avez arrêté ?» Mais moi, ça ne me manque pas du tout. J'ai assez aimé cette vie, en tout cas pendant un moment, itinérante et tout, les rencontres, et puis ce travail harassant quand même, parce que c'est un sacerdoce d'être une chanteuse d'opéra.
Alors oui, je vous cite hein, dans le Figaro, « J'avais quitté les ordres, ce n'était pas pour y revenir de sitôt, pensais-je, mais ce n'est pas parce qu'on a quitté les ordres qu'on a perdu la foi. »
Ben oui, c'est ça. J'ai cru l'avoir perdu pendant un moment, c'est vrai. Et là, en fait, confinement aidant, j'ai retravaillé ma voix d'opéra et je me suis un peu réconciliée avec elle.
J'ai vu que vous regrettez que le public jeune ne soit pas plus sensible à l'opéra, particulièrement en France. Vous dites c'est bizarre, quand j'ai commencé, le public était vieux et il l'est toujours, comme si le stock de vieux s'auto-régénérait.
Oui, tant mieux pour la jeune génération de chanteurs d'opéra. Mais c'est vrai qu'on vient à l'opéra, j'ai l'impression, au bout d'un temps, que l'opéra plaît aux enfants, assez jeunes et aux vieux. Ils comprennent que ça parle aux tripes, en fait. C'est ça le truc. C'est que l'opéra, ça parle aux tripes.
Quand ce n'est pas notre milieu ou notre culture, par quoi est-ce qu'on commence ?
Un opéra comme Tosca, c'est un bon début. Parce que l'histoire est simple. Elle mêle la politique, l'amour, la mort. On s'y reconnaît, la musique est sublime. Et c'est peut-être un bon départ.
Aujourd'hui, Nathalie Dessay, votre vie, c'est le théâtre, le jazz. Vous êtes une femme de scène, très clairement. Un point commun à toutes ces disciplines, cela dit, ce sont les répétitions. Et j'ai vu que c'était votre temps, votre travail préféré.
On a à chercher et à se poser des questions et à essayer des trucs, juste pour le plaisir, en fait. Et c'est ça qui me plaît par-dessus tout.
Vous avez eu un confinement qui a l'air comme ça de l'extérieur, hein, assez doux, très musical, en famille.
Oui, parce qu'il se trouve que trois d'entre nous sur quatre ont eu le Covid, qui n'était pas un Covid très grave, donc on a eu de la chance. Moi, j'ai perdu le goût et l'odorat depuis plus de 5 mois maintenant, mais ça fait pas mal. Mais je conçois que ce soit pas du tout la même chose pour d'autres, et que ce soit vraiment très, très, très difficile, et notamment pour la jeune génération, les étudiants, par exemple. Et il faut qu'on arrive à en sortir, quoi. Je ne sais pas comment ni quand, mais ça devient très, très long, là. Ça fait un an et on n'en voit pas le bout.
Et on n'en voit pas le bout, effectivement. Non, je vous posais la question du confinement, parce que j'ai lu que vous avez chanté en famille. Alors, je le dis pour nos auditeurs, votre mari est baryton, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Vous avez un fils saxophoniste.
Oui, qui chante aussi, d'ailleurs.
Une fille qui chante aussi.
Vous avez chanté ensemble. Chante. Oui, oui, on chante. Et on était 5 à être confinés au mois de mars dernier. Donc, on en a profité pour enregistrer un titre pour Symphonie pour la vie. Donc, dont tous les bénéfices sont allés aux soignants. Ça, c'était plutôt sympa. On aime bien partager ça, parce que c'est quand même une passion commune et ça crée un lien supplémentaire entre nous.
J'aurais pas le scoop de l'album de la famille de
non,
ceux
non,
qui
non,
arrive
non, non, pas encore, prochainement. Non, non.
Pas encore le projet
non,
familial.
Non. Je me dis toujours que on va pas faire ça comme ça. J'attends que mes enfants soient bien établis dans leur métier et pour que éventuellement, si je suis sage, ils m'invitent.
Et qu'ils invitent leur maman.
Voilà, en spécial featuring. Night in day.
C'est vrai qu'on peut très souvent vous demander quel air vous allez retenir, quel morceau d'opéra. Moi, je voulais vous parler du lieu, l'opéra, parce que c'est aussi un bâtiment, c'est aussi...
ce temple.
Et vous avez fait le tour du monde. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un opéra comme ça que vous retenez parmi d'autres?
J'ai adoré chanter à Garnier, parce que le bâtiment est tellement extraordinaire et ce plafond de Chagall me fera toujours rêver. J'ai adoré chanter au Châtelet aussi. J'ai adoré chanter à l'Opéra de Vienne pour l'acoustique. Je voudrais engager les gens qui ne sont jamais entrés à l'opéra à entrer dans ce bâtiment. Parce que ça peut être des bâtiments qui impressionnent et dont les gens se disent, au fond, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi la musique classique, c'est pas pour moi tous ces ors, c'est pas pour moi toute cette beauté. Et je voudrais dire que si, la beauté de la musique classique et de l'opéra, c'est vraiment destiné à tous. Parce qu'encore une fois, l'opéra, ça parle aux tripes. Ça parle pas à l'intellect, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Merci Nathalie Dossin.
Merci à vous.
Ce matin sur Europe 1. Merci encore à Nathalie Dessay. 7h50 tout de suite, l'édito politique.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h52. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
C'était assez inattendu, le Premier ministre a annoncé hier soir un troisième confinement pour grosso modo un tiers des Français.
Oui, et malgré les tentatives de Jean Castex et du ministre de la Santé, Olivier Véran, pour démontrer l'excellence de la performance française en matière de vaccination, le pays va payer cher le cafouillage français dans ce domaine. À ce jour, un Anglais sur deux est vacciné, contre à peine un Français sur 10. On savait que notre sortie de la crise sanitaire dépendait de la course de vitesse entre le vaccin et les variants. Eh bien, c'est clair, et le chef de l'État l'admet lui-même, c'est le virus qui a gagné, il est devenu le maître du temps.
Et donc, on pouvait en conclure qu'un reconfinement faisait partie des probabilités.
Oui, mais non, ou non, mais oui. C'est comme vous voudrez.
C'est-à-dire
ben, si on écoute les médecins, oui, ils étaient nombreux à demander un nouveau confinement. Et cela depuis fin janvier. Mais pardon, ce n'était pas du tout la tonalité du message délivré par le chef de l'État et son gouvernement. Depuis qu'il avait fait le pari de ne pas enfermer à nouveau la France, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, par exemple, Emmanuel Macron faisait et disait tout pour justifier sa position. Il fallait tenir, encore quelques semaines difficiles, 4 à 6, un horizon de plus en plus proche, disait le porte-parole du gouvernement en sortant du Conseil des ministres. C'était il y a 15 jours, et si je compte bien, il restait donc, théoriquement, un petit mois avant ce que le gouvernement appelait le retour à une vie plus normal. Bon, ben à la place, on a l'enfermement immédiat d'une partie du pays.
Oui, parce que le virus et son variant anglais ont soudainement accéléré, c'est ce que dit Jean Castex.
Mais c'est sûrement vrai. Mais pourquoi alors tout ce discours optimiste tenu encore mercredi soir par Emmanuel Macron devant des maires de la région parisienne? Pourquoi avoir dit en public qu'en cas de reconfinement, la vie serait impossible? Lutter contre le virus exige sans aucun doute un discours à géométrie variable pour l'adapter à l'apparition des variants. Ok, mais ne pas dire les choses clairement, laisser mariner pendant plusieurs jours une opinion publique sous pression à laquelle on distille des petites phrases du genre « on prendra les décisions qu'on doit prendre », eh bien c'est installer l'incompréhension. Je ne sais pas si Emmanuel Macron a gagné ou perdu son pari sanitaire de fin janvier. Et après tout, c'est vrai qu'on a gagné des semaines plus libres que celles qui s'annoncent maintenant pour une partie de la France. Au fond, peu importe que le chef de l'État se soit ou non trompé, ce qui est sûr, c'est que les Français peuvent avoir le sentiment d'avoir été trompés. Tout faire pour ne pas être prévisible, c'est nourrir la déception. Et politiquement, ce genre d'épisode a forcément un coup.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins sur Europe 1. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, 7h55. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics. Et Nicolas Barré, notre chroniqueur éco, voulait lui dire un mot.
Oh Mathieu, c'est pas une blague?
C'est pas. Enfin, bonjour Laurent, bonjour Nicolas. C'est vrai, c'est pas pour déconner. C'est vraiment Olivier Dussopt qui va venir. Oh, là, je suis trop fan. Oh, c'est fou. 20 minutes d'entretien sur le déficit public. Oh là là. Oh, je suis comme un dingue. Oh, je vais mettre ma cravate autour de la tête. C'est sexe, drogue et comptabilité. Oh, les auditeurs d'Europe 1, loupez pas ça si vous voulez avoir la pêche le matin. Bonne interview sur les plans de relance européens et le remboursement de la dette Covid. Bon, j'espère qu'il va nous jouer son grand tube. Tu sais, la dette doit être remboursée, la dette doit être remboursée. Ah ouais, je claque des doigts en rythme. S'il l'a fait, je fais un pogo tout seul chez moi, je fracasse tout.
7h56 sur Europe 1, c'est signé Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Et vous l'avez entendu, à 8h15, le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, au micro de Sonia Mabrouk, bien sûr, 7h56. 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Vous l'aviez annoncé, il fait froid. Frais pour l'instant.
Ben, ce froid, oui, surtout, j'avais bien dit à nos amis hein, il y a longtemps qu'il ne fallait pas se lancer dans les plantations, qu'il fallait faire attention, que le froid allait revenir. Bon, il revient le froid. Alors, en lui-même, le froid n'est pas excessif, puisqu'en ce moment, par exemple, il fait entre 1 et 5 degrés sur la France, hein, la moyenne nationale. Mais nous avons des vents de 40 à 50 km/h et ces vents viennent du pôle. Donc, dès qu'il y a une rafale de vent, là, vous prenez 4 degrés dans la figure, hein, en moins. Ça veut dire que c'est vraiment un temps qui est désagréable au possible. Alors, comment va se passer l'état du ciel ? Comment sera l'état du ciel dans le courant de la journée? Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Normandie, région parisienne, Berry, Franche-Comté, région lyonnaise et vallée du Rhône. Les éclaircies seront vite présentes. D'ailleurs, sur Paris, elles sont déjà présentes. Et très rapidement, vous aurez un temps agréable. Sur la Bretagne, la Vendée, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, la vallée de la Garonne, je ne change pas par rapport à tout à l'heure. Comme la Lorraine-Alsace, le Dijonais et les Alpes-Maritimes, là, il faudra patienter au moins la mi-journée. Et puis, quelques niches sur le piémont pyrénéen, les pluies. Sur la région toulousaine, quelques averses comme sur le Languedoc-Roussillon, sur les massifs montagneux, Vosges, Jura, Alpes, de la neige à partir de 300 mètres. Partout, le vent nord-nord-est sera là, autour de 40 à 50 km/h. Donc, demain, ce sera un temps relativement agréable parce que le soleil sera présent quasiment partout. Et c'est un soleil pâle, c'est pas un soleil vraiment rayonnant, mais quand même, il sera là pratiquement partout. Puis dimanche, sur la moitié nord, nous aurons quand même pas mal de nuages. Sur la moitié sud, il continuera de faire beau avec des vents encore plus forts.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9.